J'ai toute une série de petites questions bêtes.
En général, c'est les meilleurs. Hein. Non, mais c'est vrai. Quand ça commence comme ça, d'ailleurs, c'est là que je m'inquiète. Question bête égale question qui tue.
À un moment, on nous a dit que le nombre de milliards qui circulaient dans la sphère financière était beaucoup plus important que celui qui circulait, que ceux qui circulaient dans l'économie réelle.
Oui.
J'arrive pas à comprendre, ils sortent d'où ces milliards?
Ah bah c'est très simple. Ils viennent de deux origines. La première, ce sont c'est le cumul des épargnes. Alors des épargnes, c'est ça le truc vraiment. J'allais dire, c'est le truc drôle, c'est le truc ignoble, quoi. C'est-à-dire que la moitié du carburant de la finance, c'est le salariat qu'il fournit. Parce que c'est son épargne à lui qui est agrégée, captée. Et agrégé dans les bilans des grands investisseurs institutionnels, des grands collecteurs de l'épargne financiarisée, que sont quoi? Les caisses d'assurance, les fonds de pension là où il y en a, les fonds mutuels, c'est-à-dire chez nous ce qui s'appelle des SICAV ou des fonds communs de placement, etc. Donc c'est cette épargne-là qui est pompée, cumulée et balancée sur les marchés financiers et qu'on retrouve dans ces fameuses statistiques sur les encours qui sont en circulation. Et la deuxième origine, c'est le crédit. Je veux dire, la sphère financière, elle aussi, a intensément carburé au crédit. C'est-à-dire la spéculation, c'est nourri de ce qu'on appelle l'effet levier, c'est-à-dire le recours à l'endettement massif de la part des agents de la spéculation même, hein, je ne parle plus de l'endettement des ménages, hein, de la part des agents de la spéculation, pour prendre des positions très au-delà de ce que leur permettaient leurs seuls apports de capitaux propres. Ce qui est formidable, hein, comme son nom l'appelle, hein, l'effet levier, c'est un levier, et donc ça va bien au-delà des possibilités offertes par les ressources propres d'un agent en question. Et donc là, les flots de crédit qui ont été dirigés vers la spéculation sont tout à fait considérables. Et quand on met ces deux choses bout à bout, ça fait cette différence abyssale.
Mais le crédit, justement, ils l'ont auprès de qui? Enfin, la masse monétaire augmente, c'est
Bien
de la
sûr,
création
ben
qui
oui,
sont nouveaux.
le crédit, ça se. Je veux dire, c'est comme le port salut à la fromagerie, le crédit dans les banques. Ce sont les banques qui ont fait exploser le crédit pour les agents de la finance. C'est très simple d'ailleurs, il y a par exemple les grandes banques de Wall Street, les banques d'affaires, sont ce qu'on appelle des prime brokers. Alors les prime brokers, ce sont les fournisseurs de services intégrés dont les clients sont les hedge funds. Alors les hedge funds sont déjà des agents qui pratiquent beaucoup l'effet levier. Il y a des effets leviers en amont, et quand ils arrivent et qu'ils s'adressent à une banque pour la fourniture de ce package de services intégrés, qui est quoi? Qui est la passation des ordres, la tenue des comptes titres et la fourniture de crédits supplémentaires. Voilà. Donc c'est et les banques, c'était un business extraordinairement juteux tant que les hedge funds sortaient des rentabilités étincelantes. Donc pourquoi se priver? C'était une affaire qui marchait. C'est le crédit bancaire qui a fourni tout ça.
Mais ça ne veut pas dire que les banques avaient l'argent dans leur coffre.
Ah, là encore, la filoute, elle veut me faire venir sur le terrain de la création monétaire, c'est
Je
ça.
sais pas, non, c'est juste au moins la question de savoir si justement c'était de la création monétaire.
Non, mais je veux dire, c'est une question. Écoute, c'est une question intordable, ça. Là, on n'en viendra pas à bout là, parce que c'est un débat trop compliqué. Enfin, je vois, c'est technique au surplus. Qui nécessiterait presque un papier, un crayon pour dessiner un bilan bancaire, etc. Tu vois, des choses comme ça. Et là, franchement, j'ai pas envie de m'y lancer là. Là, franchement.
La question que je maîtrise pas. J'avais une variante de petite question, tant pis, j'apprendrai plus tard. Les milliards qui ont été mis en circulation dans les plans d'aide mis sur la table par les États, même chose,
D'où
ça
ils
sort
viennent?
ouais.
Du cul de la poule, comme le reste. Non, bah, c'est moins difficile de répondre. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que y a des milliards de différentes sortes. Hein. Bon, il y a les plans d'aide stricto sensu qui sont faits par les États. Ça, c'est une chose. Et puis, il y a tout ce qui est de l'ordre des concours de liquidités qui sont fournis par les banques centrales. Ça, c'est une autre chose. Alors là, là, pour le coup, on est moins gêné pour répondre. Enfin, quoique, même si on entrait dans le détail technique, ça serait plus compliqué que ce que je vais dire. Mais par définition, c'est la banque centrale crée sa monnaie, elle, absolument ex nihilo. Voilà, ça, c'est très clair. Il se trouve qu'en fait, les choses sont en train de devenir passablement plus compliquées depuis quelques mois. Mais ça je laisse ça de côté. Alors, en revanche, les plans publics, ça, c'est pas de l'argent créé ex nihilo. Il se trouve que tout bêtement, l'État s'endette. Il s'endette sur les marchés financiers. Voilà. Donc ça, cet argent, on sait très bien d'où il vient. Alors, il s'endette auprès de qui? Ben, toujours des mêmes. Il s'endette auprès des investisseurs institutionnels. Donc, les investisseurs institutionnels, parfois les banques. Si on dépliait toute la tuyauterie, ça ferait un truc bizarre, hein. Investissent dans les bons du trésor qui sont émis par les États pour financer les plans de sauvetage des banques. Voilà. Mais il n'y a pas que les banques qui investissent là-dedans. Il y a tous les autres investisseurs, tous ceux que j'ai cités tout à l'heure, les caisses d'assurance, les fonds de pension, les fonds mutuels. Bon. Et pourquoi ils investissent là-dedans? C'est-à-dire pourquoi l'État arrive-t-il à lever des sommes aussi considérables? Mais c'est extrêmement simple. Et on en revient à ce dont on parlait tout à l'heure, à savoir, au fait, où était le vrai problème? Est-ce que c'était vraiment le problème de la dette des États ou est-ce que c'était plutôt le problème de la dette des agents privés? Et la réponse est que c'était le problème de la dette des agents privés. Parce que la dette des agents privés, plus aucun investisseur n'en veut. C'est bien la raison pour laquelle les marchés de crédit sont absolument congelés. Par contre, le seul agent qui arrive pour l'instant... Parce que ça pourrait ne pas durer jusqu'à la Saint-Glingue. Hein. Le seul agent qui arrive pour l'instant à lever des fonds comme il le veut sur les marchés, c'est l'État. Parce que lui, ses titres, au moins, ils ne sont pas pourris. Pour l'instant, ils ne sont pas pourris. Parce que c'est très simple. Hein. Qu'est-ce qui est en train de se passer actuellement? De toute façon, il n'y a pas 36 solutions. Hein. On a une crise de dette privée et on est en train de la transformer en autre chose. On est en train de la transformer en crise de finances publiques. Et on est en train de la transformer en crise éventuellement monétaire, du fait de l'explosion du passif de la Banque centrale, des créations monétaires monumentales qui sont en train de se produire, etc. etc. Alors, la question, c'est... Après, c'est des questions de timing, c'est-à-dire, est-ce qu'on va résoudre la crise de finances privées suffisamment vite avant que ça ne donne lieu à une crise de finances publiques ouverte? C'est ça, la question. Si la réponse est oui, ouf. Si la réponse est non, là, il faut remplir les baignoires de pommes de terre. Parce que là ça se passera vraiment très très mal. Quoi. Et alors, le degré ultime de la merdouille, ça serait si au surplus, les agents commençaient à ne plus avoir confiance en la qualité de la monnaie du fait des quantités faramineuses dans lesquelles la monnaie en question était mise. Il faut bien voir que le passif de la Banque centrale, de la Réserve fédérale, a été multiplié par 2. Il faut voir les statistiques, c'est incroyable, on voit une espèce de courbe là qui est un peu plate et puis pan, un pic qui monte au plafond, et très franchement c'est très impressionnant. Alors, crise de défiance contre la monnaie, en général ça s'appelle de l'inflation et même de l'hyperinflation, et pour l'instant on n'en est pas là puisque c'est peut-être exactement l'inverse qui nous menace, c'est-à-dire la déflation. Mais là, il se passe des choses insaisissables et imprévisibles, quoi. Donc pitonis et cartomancienne, bienvenue. Hein, parce que la prévision va devenir un art encore plus difficile qu'il n'était. Hein.
Et effectivement, dans le cas de situations catastrophiques, c'est quasiment ça, il faut remplir sa baignoire de pommes de terre.
Oui, d'ailleurs, moi, honnêtement, je ne... Voilà, j'ai eu très très peur, moi, mais vraiment très peur au mois de septembre. Il y a eu 15 jours où vraiment, mais j'ai eu la fucking trouille, quoi. Parce que, je sais pas si les gens se rendent pas bien compte, alors, ça gueulait de partout qu'on allait sauver les banques, c'était une honte, et c'est vrai, je veux dire, c'est complètement compréhensible. Il faut bien voir que si on les avait pas sauvées, faut voir l'énormité du massacre qui s'en serait suivi, quoi. Je veux dire, l'effondrement d'un système bancaire, c'est pas beau à voir, quoi. C'est pas beau à voir parce que ça aurait été mille fois pire que ce qui s'est passé en Argentine en 2001-2002. C'est-à-dire les gens se ruent au guichet pour retirer leur pognon et la réponse est non, il n'y en a plus. C'est la banque est illiquide, insolvable, fini, pété. Vos éconocroques n'existent plus. Et alors je fais quoi pour aller au Shopee demain, genre, hein, pour m'acheter des patates. Non, mais c'est des trucs, c'est franchement, hein, c'est des points extrêmes, hein, pour des sociétés, des trucs pareils. Bon, et puis alors, il y a les plans qui sont arrivés, on a dit, on ne laissera pas une banque crever, etc. Encore heureux, hein, qu'on ait dit ça, dis donc. Ça, ça aussi, c'est des effets d'apprentissage, peut-être. Bon. Et alors, on a reculé un peu du bord du gouffre. Et tout le monde a dit, ouf. Et puis c'est là que, du coup, alors moi, à ce moment-là, j'ai commencé à penser, c'était au mois de novembre, que c'était la pire des situations. Mais là, c'était un pire à bas bruit, donc qui se voit pas. Hein. C'est-à-dire que on avait reculé du gouffre, et ça, c'était bien, du bord du gouffre, ça, c'était bien. Mais du coup, il n'y avait plus cette espèce d'incroyable aiguillon, quoi, de à faire des choses extrêmes. Parce que c'est une situation extrême qui appelle des réponses extrêmes, des trucs qu'on n'a jamais eu l'idée de faire avant, ou enfin, bon. Et alors, ça a commencé, ça a commencé à atermoyer et à tergiverser. Donc, Sarkozy nous fait des discours à Toulon et à Douai qui sont surréalistes. Il n'y a rien qui sort. Il y a un G20 au mois de novembre, il n'y a rien qui sort. Il n'y a que Claude Askolovitch, hein, qui avait cru apercevoir que Sarkozy était le maître du monde, mais ça n'a pas produit un pet de lapin. Et on est parti pour que le G20 d'avril, franchement, je veux dire, ça va être maigre, hein, le bilan. Maigre. Hein. Bon. Et du coup, la situation a recommencé à pourrir. Voilà. Et là, maintenant, on arrive dans des pourritures qui sont d'une autre nature, parce que forcément, hein, le problème a crû et embelli. Et on se pose la question de... Enfin, moi, c'est la question que je me pose. C'est celle dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire, pour l'instant, on a des plans publics pour endiguer une crise privée. À partir de quand cette situation va transformer la crise de finances privées en crise de finances publiques? Et puis en crise monétaire. Et si on arrive là, c'est fini. Je veux dire, c'est plus la banque centrale de la planète Mars qui va venir en prêteur en dernier sort. Il n'y a pas d'autre ressort au-delà du dernier sort. C'est ça le truc. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Et donc, ça fout un peu les jetons quand même. Ça fout un peu les jetons. Par exemple, ce qui est en train de se passer en Europe centrale, ça va être très très inquiétant, quoi. C'est vraiment très inquiétant. Et alors, c'est d'autant plus inquiétant qu'on a des institutions européennes d'une nullité, mais enfin totale, quoi. C'est hallucinant. Je veux dire, d'entendre. Mais de toute façon, cette Europe-là va crever. Je veux dire, elle le sait pas, mais elle va crever. Hein. Ça fait pas l'ombre d'un doute. D'entendre Nelly Kroes fin novembre venir dire que on va retoquer les plans de sauvetage des banques, c'est des aides publiques, c'est interdit par les traités. Au cabanon. Je veux dire, non mais c'est. Voilà, au cabanon, elle est folle. Non mais faut être fou, quoi. Je veux dire, on est au bord du gouffre, t'as pas le droit de faire un pas en arrière. Mais au secours, lâchez les chiens, quoi. Enfin, c'est dingue. Bon, d'entendre Almunia venir nous dire attention, hein, faut pas que ça dépasse 3% les déficits. Non mais, qu'est-ce que tu veux faire? Enfin, c'est juste dingue. Les États-Unis sont en train de se taper un déficit à 12%. S'il faut aller à 15, ils iront. S'il faut aller à 20, ils iront. Pas une hésitation, quoi. Et non mais, je veux dire, moi, je sais même pas trouver les mots pour le dire, quoi. Et on a des mouches du coche qui viennent nous dire, attention, hein, pas plus que 3. On a la crise du siècle, et on a des espèces de comptables à lustrine qui viennent... Non mais, c'est juste fou, quoi. Bon, alors, moi, je pense que de toute façon, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. L'histoire va les balayer, mais à un point. D'abord, c'est fait, Kroes a bouffé son chapeau, hein, donc les aides d'État, on les fera, et puis de toute manière, s'il faut les refaire, on les refera pareil. Les déficits vont exploser, et personne ne pourra rien à ça. Voilà. Je veux dire, le nombre des articles qui sont des traités qui sont en état de violation aggravée croît et embellit chaque jour. On a laissé faire des consolidations bancaires qui violent notoirement les articles de la concurrence sur les positions dominantes, etc. Et il fallait bien faire reprendre des banques subclaquantes par d'autres qui l'étaient un peu moins. On est en train de violer les articles sur les aides d'État, je viens de le dire, sur les déficits publics. On va violer allègrement, c'est très possible, l'article qui interdit à un État membre de prêter à un autre. Oui, mais sauf que, si la Hongrie est à l'agonie, et que, bah oui, l'Autriche, les banques autrichiennes sont engagées dans le système bancaire hongrois, dans le système financier hongrois, à hauteur de 80% du PIB autrichien. Mais ils vont pas laisser faire, les Autrichiens. Et pareil pour les Suédois dans les pays baltes. Je veux dire, il faut bien voir, ce sont des enjeux de survie pure qui sont en train de se poser. C'est pas un connard avec son traité qui va, je veux dire, qui va venir y changer quoi que ce soit. Quand l'alternative, c'est survivre ou mourir, les gens choisissent vite. Et ils vont choisir vite. Bon, alors, c'est la raison pour laquelle, au bout d'un moment, il va falloir remettre le droit d'équerre avec le fait. Parce que là, pour l'instant, le droit européen est mais violé dans les poubelles au fond d'une impasse. Hein. Je veux dire, c'est terrible. C'est terrible. Et il y a bien quelques juristes qui finiront par s'inquiéter de ça. Ah ben non, attendez, écoutez, les gars, il y a un problème. On peut, juridiquement, vous savez, on ne peut pas laisser faire ça. C'est pas bien, parce qu'après, les gens disent, oh, le droit... Pff. Alors, ben, faudra réécrire. Bon, alors, ça, c'est la vertu des crises, peut-être. Quoi. Ça permet de réécrire. Ça permet de réécrire des trucs qui ont été mal écrits. Alors, moi, c'est ce que je souhaite. Donc, que cette Europe crève, et qu'il y en ait une autre. Voilà, où on réécrit tout. Si ça produisait ça, peut-être la crise n'aurait pas eu lieu pour rien, quoi. C'est...